Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment situer l'œuvre et la pensée d'Albert Camus, mort en 1960, dans son temps et dans le nôtre? C'est l'ambition du dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins, en novembre 2009. Des spécialistes du monde entier, 65 personnes environ, se sont rassemblés pour rédiger cet ouvrage de presque 1000 pages sous la direction de Jean-Yves Guérin. Ils intègrent dans les centaines d'entrées de ce dictionnaire les derniers travaux critiques et historiques sur le sujet, sur le grand écrivain tel qu'il reste en lui-même. Deux mots pour présenter Albert Camus, dont la figure est universellement connue. L'écrivain est né en Algérie en 1913, il est mort prématurément en 1960 dans un accident de voiture et pour des lecteurs du monde entier, il reste un grand écrivain. Il avait reçu en 1957 le Nobel de littérature qui récompensait à la fois le romancier, l'essayiste, le dramaturge et le moraliste. Il est l'auteur, faut-il le rappeler, de L'étranger, La chute, Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté, La peste, Caligula et d'autres. L'homme fut résistant, journaliste, citoyen, père de famille. Aujourd'hui, pour évoquer Albert Camus et le dictionnaire qui lui est consacré dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, avec nous Pierre-Louis Rey, professeur émérite de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue d'histoire littéraire de la France, et qui est un spécialiste du roman du XIXe siècle, de Stendhal, de Gobineau, de Flaubert, de Proust, mais aussi et surtout de Camus. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Camus et vous avez à peu près rédigé une quarantaine d'entrées dans ce dictionnaire. Merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour.
Pierre-Louis Rey, Camus se définissait lui-même comme un artiste plutôt que comme un philosophe. Que pensez-vous de cette présentation?
Il le dit dans ses carnets et c'est une définition qui me surprend, qui surprend peut-être un peu tout le monde. J'ai d'ailleurs cité une fois inexactement cette phrase en disant qu'il se présentait comme un penseur et non comme un philosophe. Et on m'a opportunément corrigé. Il ne veut pas être catalogué comme philosophe, c'est certain, puisqu'il n'appartient pas au sérail de la philosophie, il n'a pas fait de longues études philosophiques, il est moins compétent que Sartre, par exemple, pour expliquer Heidegger, Husserl ou d'autres. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait opposer à la qualité de philosophe celle de penseur, qui ne se soumet pas aux catégories universitaires traditionnelles pour évoquer l'histoire de la pensée et la pensée de son temps. Artiste. Je ne crois pas qu'on pense à Camus spontanément comme à un artiste. Peut-être parce que dans notre langage courant, et c'est sans doute un tort, quand on pense à artiste, on pense plutôt aux beaux-arts, à la peinture, à la musique, plutôt qu'à la littérature. Mais il y a chez Camus une ambition d'artiste qu'il répète souvent. Il aurait aimé être un grand auteur tragique.
Et mais il a beaucoup écrit pour le théâtre aussi.
Mais il n'a pas été le grand auteur tragique de son temps. Pour lui, le plus grand des arts, c'est la sculpture. Je ne crois pas qu'il ait jamais fait d'essai de sculpture. L'art, n'oublions pas, dans le mythe de Sisyphe, c'est le moyen de dépasser l'absurde. Et L'homme révolté, qui est souvent lu comme un ouvrage avant tout politique et philosophique, fait une large part à l'art, parce que l'art est une forme de révolte. En créant, l'artiste tient compte de son temps, parce qu'il faut affronter son temps et ne pas fuir dans le formalisme. Mais l'artiste, c'est celui qui, comme le dit Camus, corrige la création. Alors, si on prend artiste au sens le plus large du terme, c'est-à-dire celui qui, en écrivant, en ce qui concerne Camus, mais en peignant, en composant de la musique, s'il s'agit d'autres, être artiste, c'est ne pas accepter sa condition d'absurde, c'est se révolter contre son temps. Et si on prend artiste dans cette acception générale, j'aurais presque envie de dire conceptuelle, on comprend mieux qu'il l'oppose à philosophe. Mais la formule me paraît non pas réductrice, non pas fausse, d'ailleurs c'est lui qui le dit, il a bien le droit de se définir comme il veut, mais un peu surprenante par rapport à l'idée que nous ne faisons de Camus, qui est, si on devait le définir en deux ou trois mots, de la manière dont il se présente dont il se présentait à son époque et dont il se présente à la postérité, c'est un romancier, un homme de théâtre et un penseur. Et c'est vrai que le mot artiste me prend un peu au dépourvu.
Un homme de théâtre, c'est peut-être aussi ce que... Enfin, il y a la renommée universelle de l'étranger, mais c'est peut-être aussi ce que le public d'aujourd'hui connaît le mieux aussi de Camus. Même si son théâtre n'est plus joué, va être à nouveau joué.
Et il a été très vite classé dans la rubrique du théâtre à idées, comme Sartre.
Un théâtre qui a vieilli, à votre avis ? Trop engagé dans son temps ?
C'est un théâtre, on peut dire, sans trop lui faire de tort, qu'il a vieilli. Lorsque Camus cesse de créer par lui-même, je veux dire qu'il cesse d'écrire des pièces originales et qu'il s'en remet aux adaptations. Les adaptations, d'ailleurs, de Camus sont plus souvent jouées, je crois, si on met à part Caligula. Les adaptations, comme Requiem pour une nonne et Les possédés, ont eu relativement une meilleure fortune que son théâtre. Mais Camus renonce à la création théâtrale proprement dite, oui, pour se consacrer aux adaptations, en 1949. Et en 1950, c'est le moment où les scènes sont occupées par Ionesco, par Beckett, par Genet. Donc le théâtre de Camus apparaît à ce moment-là comme un théâtre du passé. Et je dois dire que quand on joue, et heureusement, on joue encore souvent, Caligula, Les Justes récemment,
oui,
qui a eu droit à plusieurs mises en scène, j'ai l'impression que la critique s'ingénie à justifier Camus en disant « Vous voyez, c'est pas si vieilli. Hein, » ce qui est quand même... ça n'est pas l'émerveillement de la découverte. C'est un théâtre qui compte, qui... ce n'est pas parce qu'il véhicule des idées qu'il doit être mis au rencard, mais je ne crois pas qu'on puisse miser sur un grand avenir de Camus à la scène.
On sait qu'il aimait beaucoup le théâtre. Comment est-il arrivé au théâtre ? Il a même été acteur, il a créé un théâtre pendant ces années où il était proche du Parti communiste algérien. Qu'a représenté pour lui cette ouverture sur le monde par le théâtre dans ses jeunes années quand même ? Parce qu'il est arrivé à l'écriture à la fois par ses carnets que vous avez évoqués tout au début et puis par le théâtre.
Dans les années 1930, quand il a 17 ans, il a une première passion qui est le football. Il a commencé par le football et bon, je ne dirais pas que le théâtre est un succès d'année du football, mais c'est peut-être en partie parce qu'il n'a pas pu développer sur les terrains sa passion du geste, du sport et, ce qui est capital chez lui, de l'action collective, ce qu'il n'a pas trouvé dans le football, il le trouve dans le théâtre. Je ne veux pas dire que s'il avait été un grand joueur de football, il n'aurait pas été en même temps un grand auteur de théâtre. Mais les deux, il les lit hein, souvent dans ses interviews. C'est dans les stades et sur les scènes que j'ai appris le peu de choses que je sais de la vie, ou dans La Chute, Clamence, qui en l'occurrence fait entendre la voix de Camus, les scènes de théâtre et les tribunes des stades sont les seuls lieux du monde où je me sens innocent. Donc il y a dans le théâtre quelque chose qui est conjoint dans ses idéaux, dans sa manière d'être, avec sa passion pour le sport. J'imagine Camus, à 20 ans, se démenant sur une scène, vous l'avez dit, il était acteur, il aurait aimé être acteur, et il a continué à l'être, il a failli jouer le rôle principal dans Huis clos de Sartre. Bon, il aimait être acteur, il aimait diriger les acteurs, il aimait les actrices. Là non plus, je ne vais pas réduire sa passion du théâtre à son goût pour les actrices, mais ça y a aidé. Il aime les grands textes, les premières pièces qu'il met en scène, ce sont des adaptations de Dostoïevski, d'Ivan Karamazov, il met Gide en scène. Bon. Et puis, une passion pour le théâtre antique, puisque il a aussi, bien qu'il n'y aille que très tardivement, la passion de la Grèce et cette révélation que c'est là que se trouve, pourrait-on dire, la vraie vie. Et cette passion du théâtre antique. Alors, l'amour de la Grèce, l'amour des grands textes qui en imposent, la passion collective, l'envie d'autant plus pathétique qu'elle est chez lui limitée par une santé fragile, font que le théâtre, c'est pour lui, en prenant les choses de la manière la plus petite, on pourrait dire une manière de se défouler, mais c'est aussi une manière d'accéder à ce que la littérature lui apporte sans doute de plus important dès le début, Dostoïevski, Shakespeare et les tragédies grecques.
Vous qui connaissez bien l'œuvre de Camus, imaginons un jeune lecteur d'aujourd'hui justement qui aimerait lire Camus, par quoi pourrait-il commencer ? Le théâtre justement ? Ou un essai ?
Non.
Ou un roman ?
Plutôt un roman.
Plutôt un roman. Des nouvelles aussi ont été publiées récemment.
Alors les nouvelles...
Mais je vous pose la question.
Oui, c'est vrai que dans les... Si vous parlez de jeunes lecteurs, moi je réagis en tant que professeur. Je me dis, bon, un professeur de seconde, première, terminale, on aime les textes courts, hein, maintenant dans les classes, c'est ce qu'on fait. Et alors L'exil et le royaume, c'est un bon moyen d'accès à Camus. L'hôte est une nouvelle qui est très très souvent étudiée. Mais bon, quelqu'un qui aurait 17 ans, mettons, 18 ans, me dirait, je n'ai jamais lu Camus, par quoi commencer ? Je dirais L'étranger.
Voilà,
ouais.
Le fameux,
ouais.
Et l'incontournable, peut-être.
Et le premier homme.
Qui est donc publié bien après.
Qui a été publié 34 ans après sa mort.
Avec L'étranger, Camus a fait œuvre vraiment là, peut-être d'originalité dans sa forme narrative et dans le thème aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette singularité ou ce qui en a fait une écriture moderne ? À l'époque quand même, décalée, sans pathos, un peu froide, d'un homme qui décrit ce qu'il voit et dont on ne sent pas, nous lecteurs, ce qu'il ressent. L'étranger, c'est aussi une histoire qui est liée à l'Algérie, à son rapport d'enfant pied noir par rapport à la communauté algérienne qui l'entoure. Qu'est-ce qui fait la force et l'originalité de ce roman ? Un roman un peu particulier, écrit dans des années particulières aussi.
Vous avez raison de dire, dans les années qui ont suivi, plutôt qu'aussitôt, sans doute parce que 1942, ce n'était pas l'époque de sa publication, ce n'était pas le meilleur moment d'avoir un grand retentissement. Camus a été un auteur de réputation mondiale 5 ans plus tard avec La Peste.
J'étais surprise en travaillant ce sujet, là, de voir à quel point sa notoriété a été rapide, aussi fulgurante, y compris les récompenses.
En 47.
Ah, c'était 47, quand même très très rapide, 10 ans, 12 ans. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est nouveau ?
C'est difficile à analyser parce qu'il a réussi ce coup de génie, on pourrait dire en toute innocence, pour employer un mot bien camusien. C'est une écriture, on peut dire, nouvelle dans le roman français. Et dès que quelqu'un est nouveau, on s'ingénie à lui trouver quand même des filiations, à chercher ses influences. On pourrait dire que c'est un peu l'entrée du style du roman américain dans la littérature française. Et quand on dit ça à Camus, il est éberlué. Il dit « je donnerais 100 Hemingway pour un Benjamin Constant ou un Stendhal ». Et c'est vraiment pas à Benjamin Constant ou à Stendhal que fait penser L'étranger. Il arrive à cette espèce d'écriture totalement neutre en apparence, avec quand même des fulgurances de lyrisme. Je crois que la réussite de L'étranger, c'est une domination littéraire extrêmement savante de ce qu'était la langue simple des Français d'Algérie. Quand on étudie la genèse de L'étranger et les premiers textes, des ébauches qu'il a corrigées ensuite, on s'aperçoit qu'il écrit souvent spontanément, en particulier dans les dialogues, en employant le parler des Français d'Algérie, y compris dans ses fautes. Hein.
L'usage du passé composé aussi. Enfin,
oui, alors ça, l'usage du passé composé, il le maintiendra jusqu'au bout, mais il gomme certaines particularités trop idiomatiques du langage des Français d'Algérie. Tout en gardant le rythme, la structure, cette espèce de simplicité innocente et on a envie de dire un peu bébête devant la vie. Je sais pas, étant français d'Algérie, je n'ai pas de scrupule à parler de cette espèce d'absence de cérébralité. Hein, qu'on trouve aussi chez Camus, même si la cérébralité il y accède d'une autre façon. Si je peux faire une comparaison qui est un peu, qui vaut ce qu'elle vaut, on pourrait dire que de la même façon qu'il y a chez Céline, avec le Voyage au bout de la nuit, une réussite due au fait qu'il arrive à rendre littéraire une langue qui est purement orale, il la rend très littéraire, parce que finalement on ne parle pas comme Céline écrit. Mais l'oral, c'est pour ainsi dire le terreau de ce qui fait le chef-d'œuvre de Céline. Et chez Camus, c'est la simplicité du langage des gens qu'il a connus, des gens humbles, cette espèce d'émerveillement dans la vie auquel il donne un statut littéraire. Et alors ce passage d'une langue où on écrit comme on parle, hein, c'est-à-dire ce qui est trompeur dans L'étranger, parce qu'on peut se dire en quoi c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est peut-être même ce qui le rend difficile à proposer à l'admiration d'adolescents, pour qui la littérature, ça consiste à faire du beau style. Il y a une espèce d'évidence dans L'étranger, hein, où les phrases ont l'air de venir toutes simples. Et Camus, d'ailleurs, le domine si bien qu'il n'y a pas besoin d'être français d'Algérie et d'avoir vécu à cette époque-là, un métropolitain du début du XXIe siècle, je crois, ressent cette espèce de spontanéité. Parce qu'elle a été travaillée au point de devenir universelle. C'est le passage d'une simplicité native à une écriture littéraire qui est arrivée à être universelle. Quand je lis L'étranger, je lis chaque fois avec une espèce d'émerveillement, comme s'il y avait une espèce de magie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être aussi dépouillé et à réussir à ce point à créer un style.
Vous qui êtes très versé dans l'œuvre de Camus, peut-être qu'il y a un passage ou quelques phrases ou un début ou
le début, les premiers chapitres.
Les premières lignes de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ça sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
Il y a une étude extrêmement astucieuse de L'étranger qui a été faite par Alain Robbe-Grillet, qui tire Camus du côté du nouveau roman, et on pourrait dire que le nouveau roman est un peu l'héritier de L'étranger, sauf que les nouveaux romanciers, c'est avec une écriture sophistiquée qu'ils arrivent à des résultats qu'on peut juger voisins. Alors Robbe-Grillet, je ne dis pas qu'il reconnaît sa dette envers L'étranger, mais il place L'étranger dans cette filiation qui mène au nouveau roman, et dit Robbe-Grillet, il y a chez Camus une simplicité totale de l'écriture qui au fond se dérape un peu au moment où Camus se met à devenir lyrique. Car vers la fin du premier chapitre, lorsque la plage est gorgée de soleil, il y a d'ailleurs des passages, des images extrêmement travaillées où on se dit c'est pas Meursault lui-même se pose toujours la question, est-ce que c'est Meursault qui pourrait dire les choses ainsi, ou est-ce que c'est l'écrivain qui est en surplomb qui donne l'illusion que le personnage peut voir et penser les choses ainsi. Bon, l'écriture devient lyrique vers la fin de la première partie, dans la scène qui mène au meurtre. Et elle est extrêmement lyrique aussi à la fin, lorsque Meursault trouve une forme de révolte devant ce ciel étoilé, il s'ouvre à la tendresse, il retrouve sa mère, etc. Bon. Alors, on trahit Camus si on dit il n'est pas resté fidèle à son dessin, il a fait du lyrisme. Camus ne veut pas que rester dans cette écriture blanche qui est celle du début. Et s'il fait du lyrisme, c'est à dessein. Et L'étranger est une œuvre qui, à la fin, débouche sur la révolte et sur l'ouverture au monde. Bon, donc, n'allons pas faire un procès à Camus en disant qu'il a dévié de son dessein initial. Il n'empêche que, à titre personnel, ce que je préfère, c'est les premiers chapitres. Dans cette espèce de simplicité quotidienne, d'événements égrenés, et dans cette sorte d'ironie de la vie, puisque Camus dira plus tard « toute mon œuvre est ironique ». Elle n'est pas ironique en ce sens qu'il cherche à se moquer du monde, à mettre des formules incisives. Elle est ironique parce que la vie elle-même est ironique et fait se côtoyer des éléments totalement disparates devant lesquels on est spectateur et on s'émerveille que les choses soient ainsi.
En L'étranger, il y a le meurtre de l'Arabe qui est décrit. On lui reproche, disons, son analyse pied noir. Il a été vivement attaqué par Sartre, etc., au moment de la guerre d'Algérie. Mais aujourd'hui, ses reproches sont à nouveau sur la table. Mais par d'autres générations, dans d'autres contextes, qui ne sont pas ceux de la guerre froide.
Et chez des
Algériens d'aujourd'hui qui sont pas...
Souvent en ayant... de la sympathie pour Camus, en le considérant...
Alors peut-on considérer que Camus s'est trompé ?
Camus a été victime, si je puis dire, comme tous les colonisateurs, qu'on n'appelait pas encore pieds noirs. C'est une chose que j'aime bien préciser, c'est que le mot pieds noirs n'est entré dans le langage qu'après la mort de Camus. Les Français d'Algérie ne voyaient pas les Arabes, ils faisaient partie du décor, et pour Meursault... Les Arabes sont des gens qui passent comme ça et qui sont inquiétants. Et bon, il y a, de la part des Français d'Algérie, on pourrait dire que ça a été le péché de la colonisation, une ignorance de ce qu'étaient vraiment les Arabes. Alors, chez Camus, c'est assez compliqué parce que, par certains côtés, il participe pleinement de cet aveuglement des colonisateurs. Le mot colonisateur paraît assez énorme s'agissant de Camus, quand on sait la pauvreté où il a vécu. Enfin bon, il faisait partie des Français colonisateurs. Au moment de L'étranger, il a été victime de l'aveuglement général, en ce sens qu'il n'avait pas de copains arabes, parce que dans les classes, il n'y avait pas d'arabes. Et il y a même une phrase que je trouve, qu'on pourrait trouver choquante, dans L'été de Camus, où il dit à propos d'Alger que pour le pittoresque, il y a la Casbah. Considéré comme pittoresque, ce qui était quand même un nid de misère, hein, ça a quelque chose d'un peu révoltant. Alors, je crois que l'œuvre romanesque de Camus reflète simplement, dans la peste aussi, il n'y a pas d'arabe, parce que les Européens vivaient entre eux, et il a choisi un narrateur européen, et les Arabes, malheureusement, font un peu partie du décor. L'œuvre romanesque de Camus est un admirable témoignage sur ce qu'était l'Algérie coloniale. Mais il y a, d'autre part, l'œuvre de journaliste de Camus, qui est, on peut dire, à peu près unique pour son temps, surtout venant d'un Français d'Algérie, avec ce cri de révolte en 1939, qui est sa découverte de la misère en Kabylie, sans aucune indulgence pour les colonisateurs. Il y a ensuite ses analyses.
Mais c'est peut-être ça qui est le plus troublant, justement. C'est ce regard perçant du journaliste, et puis après, dans ses romans, Cette acuité s'évapore.
Un romancier n'est pas un moralisateur. Camus n'est pas Zola. Camus n'est pas Zola.
Ce qu'il ne veut pas être,
d'ailleurs. Si on prend les romans du 19e siècle avant le naturalisme, Balzac, Flaubert, ne nous donnent aucune idée de ce qu'était la société française réelle de l'époque. Balzac a bien essayé de faire un roman sur les paysans, qu'il n'a jamais réussi à mener à terme. Mais si on lit les grands romanciers du 19e siècle avant le naturalisme, on a une idée totalement déformée de ce qu'était la société française de l'époque. Et quand on lit Proust, alors... Camus reflète la société coloniale comme Balzac, reflète la société bourgeoise et aristocratique de son temps. On ne va pas dire, si on l'a dit parfois, mais c'est un reproche assez dérisoire, que de dire à Balzac, il n'y a pas d'ouvriers dans vos romans, alors qu'il représentait la majorité de la population à Paris et dans la région. Bon, et bien pour Camus, il n'y a pas plus d'Arabes dans ses romans qu'il n'y a d'ouvriers dans les romans de Balzac. Mais Camus ne fait pas de morale dans ses romans, les romans reflètent la réalité et la sublime de manière esthétique, mais Camus sait qu'il y a des Arabes et souffrant, et il le montre dans son œuvre de journaliste à Alger Républicain, à Combat, ses témoignages sur ce qu'ont pu être, pas témoignage direct, il n'était pas en Algérie à ce moment-là, mais sa réflexion sur ce qu'ont été les émeutes du Constantinois en mai 1945, on n'en trouve pas de meilleur que sous la plume de Camus. Il n'empêche que, c'est ce qu'on lui a reproché, conscience de la misère arabe ne lui fait pas accepter qu'il puisse y avoir un nationalisme algérien. Ça, il s'y refusera toujours. Ça, c'est un autre problème.
Camus ne va pas vivre toute sa vie en Algérie, on le sait. Qu'il a quitté l'Algérie pour la France, voilà, en 1942, même un peu avant. Il est revenu, il est reparti, il est revenu quelques mois en Algérie après. Il a rencontré le général de Gaulle en 1958, il est mort en 1960. Et il a effectivement été très attaqué sur sa position, sur son engagement modéré au moment de la guerre d'Algérie. Sur sa position, disons.
Oui.
C'est le difficile à définir.
Je crois que le mot modéré ne va pas. Camus. Camus est un...
Et... Oui, mais sur une troisième voie impossible,
voilà,
dans le contexte de l'époque.
Oui, on pourrait dire qu'il a été attaqué sur l'absence de solution politique qu'il propose, encore qu'il soutienne une politique, une solution fédérale, qui paraît aujourd'hui bien, bien utopique. Camus, c'est une banalité de le dire, a vécu la guerre d'Algérie comme une tragédie, tiraillé entre le sentiment que les Arabes, comme on disait, convaincus que les Arabes avaient mille raisons de se révolter, et convaincus en même temps que cette révolte ne pouvait avoir pour finalité une nation algérienne indépendante.
Voilà. Ça, c'était impensable. Revenons, Pierre-Louis Rey, sur le premier homme, le roman dont on a retrouvé le manuscrit dans la voiture dans laquelle Albert Camus a en fait trouvé la mort. Après le Camus philosophe, le Camus dramaturge et puis le Camus de l'étranger, présentez-nous un petit peu justement le Camus de ce roman, celui du premier homme, un roman où il voulait parler de ceux qu'il aimait et ceux à qui la parole était en fait refusée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec cette œuvre ?
Camus, si on reprend les classifications qu'il allait même proposer, mon œuvre, dit-il, se compose de trois étages. Bon, l'absurde, puis la révolte, puis l'amour. En 1953, il écrit dans ses carnets « Et maintenant, la création ». Comme s'il n'avait pas eu le temps, il n'a pas eu le temps, autant qu'il l'aurait voulu, de se consacrer vraiment à la création avant. Bon, ce « maintenant, la création » semble signifier « Je ne veux plus me disperser » en répondant aux sollicitations du monde, à l'actualité, etc., je me mets vraiment à mon œuvre telle que j'ai envie de l'écrire.
Mais on n'en a qu'un exemple.
On n'en a qu'un exemple.
Inachevé.
Et alors, le monde ne cesse de le solliciter. Il ne refuse jamais l'engagement. Il continuera d'être tiraillé par les affaires du monde. La guerre d'Algérie le sollicite, le martyrise, le met au supplice. Il écrit en 1956 La Chute, qui a l'air d'être exactement le contraire de ce programme de l'amour qu'il s'était fixé. On a l'impression qu'il expulse là quelque chose de grinçant. Et à partir de 1953, il écrit, mais de façon fragmentaire, parce que c'est long, c'est une œuvre difficile, il écrit Le Premier Homme. Mais Le Premier Homme, on peut considérer que c'est avec... peut-être Retour à Tipaza dans l'été ou deux autres œuvres, le premier témoignage de ce qu'aurait été
son œuvre.
Troisième étage. Et dans Le Premier Homme, il s'ouvre à l'amour. C'est le renouvellement de l'œuvre de Camus. Renouvellement avorté, interrompu. Alors, c'est un livre que je trouvais extrêmement émouvant parce que, d'abord, c'est un livre touchant, émouvant, parce que c'est vraiment un livre d'amour. D'amour pour sa mère, d'amour pour cette grand-mère semble-t-il, paix à son âme, mais un personnage apparemment épouvantable. Elle avait des excuses. Enfin, Camus lui trouve toutes les excuses que peut donner la pauvreté, le veuvage, etc. Bon, cet oncle...
Il a vécu chez elle.
Oui. Il est tout amour pour sa famille. Amour pour ses compatriotes d'Algérie. Pas pour les métropolitains. C'est d'une férocité terrible pour les quelques traits qu'il a. Bon, c'est une œuvre d'amour, une œuvre de retour à l'innocence, de retour au bercail, et oui, de retour sur soi. Alors, on ne sait pas trop où ça allait, parce que les notes préparatoires de la suite du premier homme englobent de manière historique la colonisation de l'Algérie, le geste des pionniers, et bien sûr toute son histoire personnelle. Et sous ce mystérieux pseudonyme de Jessica, des histoires d'amour où le héros aurait sans doute fait preuve de ce donjuanisme dont Camus a fait preuve dans toute sa vie. C'est une œuvre d'une richesse potentielle prodigieuse. Et on se demande, on se demande combien d'années il lui aurait fallu pour écrire cette œuvre qui s'annonce gigantesque dans les étapes préparatoires. Bon, mais c'est ce qu'on en a, hein, 250 pages à peu près. Il y a quelques petites imperfections près des phrases qui se tiennent et des chapitres constitués. C'est une œuvre admirable de lyrisme, de jaillissement et on pourrait dire un peu à... Alors, à l'inverse de L'étranger... Une œuvre toute de générosité, une œuvre personnelle, alors que L'étranger semblait s'attacher à rester impersonnel, mais où il retrouve quand même cette veine initiale qui est celle de son pays. C'est un mystère, le devenir potentiel du premier homme.
Vous imaginez Albert Camus, très vieux, écrire ? La suite ou un morceau ou...
Oh oui, combien de fois que... j'ai imaginé.
Tu avais pensé, je pense que...
Oui, très vieux. Il aurait aujourd'hui 97 ans, ce qui n'est pas un âge invraisemblable, hein, par les temps qui courent. Mais sa santé était fragile de toute façon. Oui, c'est même assez déchirant d'imaginer, on peut le dire de tous les écrivains morts jeunes, mais imaginez ce que Camus aurait pu écrire après 1960, ce que serait devenu le premier homme. C'est vraiment c'est presque insupportable de ne pas savoir.
Avant de nous séparer, quelques extraits de la correspondance d'Albert Camus avec son instituteur Louis Germain. Albert Camus a écrit une lettre à son ancien instituteur, Louis Germain, après avoir reçu le prix Nobel en 1957. C'est une lettre qui lui rend un hommage tout particulier. Je vais en lire un extrait et ensuite je lirai un extrait de Louis Germain, l'instituteur, à Albert Camus, une lettre datée du 30 avril 1959. Donc au moment où il reçoit le Nobel de littérature, il écrit... 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Et voici un extrait de la lettre que lui envoie Louis Germain le 30 avril 1959. Alger, ce 30 avril 1959. Mon cher petit, adressé de ta main, j'ai bien reçu le livre Camus, qu'a bien voulu me dédicacer son auteur, M. Briville. Je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. Si c'était possible, je resserrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi mon petit Camus. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage, sinon les premières pages. Qui est Camus ? J'ai l'impression que ceux qui essayent de percer ta personnalité n'y arrivent pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu arrives d'autant mieux que tu es simple, direct. Eh bien, par-dessus le marché, ces impressions, tu me les as données en classe. Le pédagogue, qui veut faire consciemment son métier, ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants, et il s'en présente sans cesse. Une réponse, un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit homme que tu étais, et l'enfant, bien souvent, contient en germe l'homme qu'il deviendra. Ton plaisir d'être en classe éclatait de toutes parts. Ton visage manifestait l'optimisme. Et à t'étudier, je n'ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille. Je n'en ai eu qu'un aperçu au moment où ta maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux bourses. D'ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là, tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu'il te fallait. Comme ton frère, tu étais gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman. Pierre-Louis Rey, merci beaucoup d'avoir évoqué avec nous Albert Camus et de nous avoir en quelque sorte donné envie de lire ce dictionnaire Albert Camus par toutes ces entrées, parce qu'il y a effectivement une entrée artiste au personnage de Camus, à ses œuvres, à l'islam. On peut trouver Garde d'Algérie, on peut trouver Gide d'autres écrivains, évidemment. Il y a aussi des personnages politiques avec lesquels il a été en contact ou historiques. Et puis les grands thèmes, la justice, le mythe de Sisyphe sur ses œuvres ou sa philosophie. Il y a à la fois des entrées littéraires, des entrées philosophiques. Une belle entreprise encyclopédique de grandes tenues avec des notes, un index des noms de personnes, une bibliographie des livres et des films consacrés à Camus et puis également une chronologie très précise, très utile, même si la vie de Camus a été courte, mais en 3-4 pages, on a là vraiment l'essentiel parce qu'elle est intelligemment faite, justement. Voilà, j'engage nos auditeurs à découvrir ce dictionnaire, à s'y promener et à relire Camus. Encore un grand merci.
Merci à vous.